Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Galère 88.4, c'est l'heure de BIM pour BD Illustration à Marseille. Pour cette 7e édition de BIM, on change un petit peu la formule avec une émission spéciale en compagnie de nos expertes et de nos experts en BD et livres illustrés. Alors, en effet, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui deux libraires, à savoir Cécile Manzo de la librairie L'Histoire de l'Œil, qui se trouve 25 rue Fontange à Marseille, dans le 6e arrondissement, maître Notre-Dame-du-Mont, et Jean-Gabriel Faris, alias Jean-Gab, de la librairie spécialisée jeunesse et BD Le Poisson-Lune, qui se trouve, elle, à 117 boulevard Baille, Marseille 5e, donc au métro Baille, comme ça c'est plus simple. Et donc, pour compléter ce déjà magnifique tableau, donc moi-même, Jean-Pierre du Festival BIM, et surtout François Nemeta, cinéaste et amateur de BD. Et voilà. Et donc, on a tous choisi deux livres ou plus, on verra si on a le temps, des BD, des livres illustrés. Et donc, on va vous présenter aujourd'hui, et ce n'est pas forcément en lien avec l'actualité éditoriale, c'est vraiment des choses qui nous semblent intéressantes de parler. Donc, merci à vous trois d'avoir accepté cette invitation.
Merci.
Merci.
Voilà, on s'entend tous, tout va bien.
Ouais.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et en guise de présentation, donc je vous propose qu'on fasse un petit tour de table. Et je vais vous demander, si vous le voulez bien, comment vous êtes intéressés les unes et les autres à la BD ou au livre illustré. Par exemple, si vous avez une lecture marquante ou un auteur ou une autrice qui vous ont, qui ont déclenché cet intérêt. On commence par Cécile.
Allez.
Allons-y. Donc, par rapport à la bande dessinée, j'ai pas. En fait, j'ai juste la lecture marquante à 2 ans de Gaston Lagaffe. Je pense qu'il.
Belle référence.
Ouais, sans le texte, ça, c'était déjà merveilleux. Et sinon, en termes d'album jeunesse, j'étais très gâtée. J'avais déjà une belle bibliothèque dans les années 70-80 avec tous les albums de l'école des loisirs. Et il y a un album en particulier qui était celui-ci aux éditions des femmes qui s'appelle Rose Bonbonne de Adéla Turin et qui était un album que vous connaissez peut-être où une jeune éléphante qui est amenée à... Normalement, pour une jeune éléphante, elle devrait ne manger que des fleurs et rester dans un parc avec une collerette pour rester rose, comme toutes les éléphantes. Et elle, elle aimerait faire comme ses frères, ses cousins, et être grise et sauter dans la boue. Donc, un album féministe des éditions des femmes.
Et c'est encore édité ?
Et c'est encore édité. Je crois que c'est Actes Sud qui a repris l'édition, qui l'a reprise en poche, pas géniale. Et peut-être récemment en album, mais je ne sais pas si en ce moment on peut le trouver.
Ok.
On regardera, on vous dit. Pardon, on vous dit. Et toi, Jean-Gab ?
Moi, plein de choses, mais je pense que un des déclics, ça a dû être. Alors, je sais pas dans quel album, mais c'est l'histoire. J'ai vu passer le bobsleigh de nuit de GB. Je lisais des trucs pour les enfants, mais chez moi, il y avait aussi des métals hurlants, des trucs pas du tout pour les enfants. Mais comme c'était des dessins, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de méfiance de la part des adultes de nous laisser des trucs dans les mains. Et aussi Rose Profond de Pierrus et Dionné que j'ai pu lire en colo. Et voilà, ça ressemble à Mickey. Puis en fait, c'est assez trash. Et en fait, en tant qu'enfant, ça donnait accès à tout un monde qui était caché et en même temps qui était assez maîtrisable. Parce que si on est choqué, on ferme le livre. Et pour GB, par contre, il n'y avait ni le côté sexe qu'il y a dans Rose Profond. C'était pas... Le dessin était assez aride. Et ce qui m'a fasciné, c'est que malgré tout ça, j'étais assez amoureux et assez emporté par ce qu'il racontait et par son dessin, alors que les histoires étaient assez incompréhensibles. Son dessin, c'est un ancien dessinateur ferroviaire, donc il a un dessin très sec et pas très sexy pour des gosses. Mais le fait d'avoir accès à cette étrangeté, je crois que c'est ça qui m'a poussé après à lire, à être amoureux de la bande dessinée et à lire d'autres trucs bizarres derrière.
On n'a que des belles références, bravo. Alors toi, François, il faut que tu sois au niveau là.
alors, je vais essayer d'être au niveau. Je crois que assez trop jeune, je lisais beaucoup trop Reiser que lisaient mes parents, que laissaient traîner mes parents. Donc Reiser, c'est sûr. Après, je me suis fait... mes goûts ont peut-être un peu évolué, mais Reiser, j'adorais. Edika, j'adorais. Et Rubrique à braque, oh là là, j'ai beaucoup trop lu ça.
Pareil.
Et voilà, de Gottlieb, bon. Mais en fait, je me rappelle surtout d'un truc que je détestais absolument qui s'appelait Achille Talon. Mais c'était mon cauchemar. Je tombais sur une BD d'Achille Talon. C'était...
C'est vrai, parce que c'était trop verbieux.
Ouais, c'était un enfer. Il y avait des pavés là, de 8 km de haut. Et j'arrivais pas à les lire, en fait. Ça me gonflait complètement. Et bon, et je réfléchissais là pendant que vous parliez. Et je me disais, mais en fait, je crois que le livre vraiment que je préfère, c'est Max et les Maxi Monstres de Maurice Sendak. Celui-là, il ne m'a pas trop. Voilà. Et celui-là, je reste dedans. J'aime beaucoup cette histoire de rêve-réalité. Là, c'est trop beau.
Bon, on reparlera un petit peu de ton travail tout à l'heure
bien
pour
sûr,
te présenter.
Bien sûr.
J'aurais dû le faire. Je l'avais noté. Puis voilà,
pas de problème.
Je me suis laissé embarquer. Eh bien, je vous propose. Merci pour ces réponses très, très pertinentes. Je vous propose, on fait une petite première pause musicale choisie par Cécile. Et après, tu nous présentes du coup le premier livre que tu as choisi.
Oui.
Allez hop, c'est parti. C'était le très délicat Rive Sud de Geneviève Castré, donc une musicienne mais aussi une autrice de BD québécoise dont tu vas nous parler plus longuement du coup Cécile. Et donc tu as choisi un de ses ouvrages qui s'appelle Susceptible.
Oui, c'est un ouvrage qui m'est arrivé parfaitement par hasard, mais vraiment livré à domicile par ma fille qui l'avait choisi à la bibliothèque publique de Marseille que je salue ici. et en fait, c'est un album, comme tu le disais, d'une grande délicatesse. Ça marche aussi bien pour sa musique que pour son dessin. Et d'une grande délicatesse, mais aussi d'une grande violence, car c'est une bande dessinée qui parle de l'enfance de Geneviève Castré, de sa toute petite enfance à son adolescence, avec une mère qui travaille beaucoup, qui est souvent absente, un beau-père qui n'est pas vraiment aimant, un père qui habite au Canada anglais, qu'elle voit une à deux fois par an. Et donc Geneviève Castré est une autrice québécoise qui est née en 1981. Et quand j'ai découvert cette bande dessinée, j'étais mais comme une folle de joie d'avoir découvert son univers. Et très rapidement, j'ai appris qu'elle était morte. Elle est morte en 2016 d'un cancer du pancréas. À 35 ans.
Ouais.
C'est vraiment une étoile filante de la bande dessinée et de la musique. Une artiste complète, vraiment fascinante. On en parlait un peu avec, avec Jean Gab. Elle a laissé une production qui est vraiment, déjà pour 35 ans, en fait, assez énorme, essentiellement des fanzines, mais aussi quelques bandes dessinées qui sont, pour l'instant, malheureusement, pas du tout disponibles. C'est-à-dire qu'on ne les trouvera pas en librairie, à moins d'aller faire un tour sur place des libraires pour voir quelle librairie indépendante l'a en stock. Et c'est ainsi que j'ai découvert que mes camarades du Poisson Lune l'avaient encore en rayon. Donc c'est un des derniers exemplaires qu'on peut trouver. J'espère qu'il est question d'une réédition parce que c'est vraiment une œuvre importante, très sensible et très puissante. Je crois que son compagnon, son mari même, avec qui elle a eu une petite fille qui s'appelle Agathe, et son mari Phil Elverum a fait un grand livre qui retrace vraiment toute sa vie. C'est un livre qui parle de tous ses travaux de 1980 à 2016. Donc on peut même considérer que dès sa naissance, elle a commencé à bosser. Et c'est un livre qu'on trouve en ligne, en fait. C'est un livre de 600 pages avec une iconographie complètement démentielle qu'on peut seulement trouver en ligne. Je n'ai pas le prix à vous communiquer car je n'ai pas cherché.
Il est en version numérique,
même, mais je pense qu'on ne peut même plus le trouver. Ouais. En fait, finalement, c'est une œuvre qui est incroyable, mais que les auditrices et les auditeurs ne pourront pas lire. Non, on trouve quelques livres donc à la bibliothèque. Il reste encore Roulatec Nicolore au Poisson Lune.
Ouais. Ouais,
qui est un petit livre, à l'Oie de Cravant, c'est ça ?
Ouais.
À l'Oie de Cravant, c'est ça.
Elle a une édition québécoise aussi.
Ouais. Ouais. Une maison d'édition québécoise qui fait de la bande dessinée, beaucoup de poésie. Et Geneviève Castré, qui n'est pas son vrai nom d'ailleurs, puisqu'elle est née Geneviève Gosselin. Et elle a choisi ce nom de Castré, Castrated, qui dit quand même aussi pas mal de choses sur son état de frustration, d'empêchement. On sent que c'est un personnage bouillonnant et qui se sent empêché dans tout ce qu'elle a envie de faire. Et donc, qui faisait aussi de la poésie, de l'écriture, qui écrivait et qui composait. Donc, elle a fait énormément d'albums de musique, dont le dernier album. Alors, en plus, elle était, en tant que musicienne, elle avait un autre nom. Elle avait deux autres noms même. Elle s'appelait Opan, comme l'oiseau, et elle s'appelait Volve, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, on trouve plusieurs morceaux
elle a
d'elle.
Plusieurs, voilà, elle a plusieurs noms, et un de ses derniers albums, le morceau qu'on vient d'écouter, en fait, est sorti peu de temps après la bande dessinée. Donc la bande dessinée est sortie en 2012, morceau qu'on a entendu en 2014 ou 2015 a été quand même un espèce de parallèle à la bande dessinée. Ça parle de son enfance et de son adolescence québécoise, ça parle de ce retour à des terres du temps avant le téléphone portable, du froid, de la neige, de la pauvreté aussi dans laquelle elle a grandi. En fait, elle était dans un univers très précaire. Et elle a donné naissance à un univers extrêmement riche.
Oui, alors, c'est un peu facile de dire ça, mais c'est vrai qu'on pense forcément à une autre autrice québécoise, Julie Doucet, même si ce n'est pas la même chose, mais il y a quand même une réelle influence. C'est un côté peut-être un peu plus onirique et poétique dans ce que fait Geneviève Castré.
Oui, c'est pas du tout le même trait. Mais en effet, elle a quelque chose de très doux, Geneviève Castré, dans son dessin, même dans son écriture. Elle a une écriture manuelle, quasiment enfantine et très ronde. Judith Doucet, elle a un univers beaucoup plus sombre, même si Geneviève Castré dessine beaucoup en noir et blanc, elle a aussi fait des choses en couleur. Et dans Susceptible, c'est tout au lavis, c'est tout en noir et blanc et en dégradé de noir et blanc. Et je crois que dans cette grande anthologie dont je parlais tout à l'heure, Julie Doucet a écrit quelques mots, justement.
Ouais, je pense qu'elle se connaissait un petit peu.
Elle a été aussi prépubliée dans la seconde ou la troisième mouture de Lapin. Mm-hmm. Quand Menu a relancé avec plein de jeunes auteurs, elle faisait partie un peu des piliers du magazine.
Ouais, tout à fait.
On peut juste effectivement rajouter que là, Le Susceptible, c'est paru en 2012, tu l'as dit, aux éditions L'Apocalypse, qui est effectivement lancé par Jean-Christophe Menu.
Je me demande si c'est pas le premier. Oui, c'est le premier.
C'est le premier,
ouais, ouais. Des premières références.
Je crois qu'il y a eu un 000 avant, peut-être. Bon, en tout cas, c'était le deuxième ou le premier. Et quand j'ai parlé, alors moi c'est une grande découverte, hein. Je crois que les personnes qui sont fans de BD connaissent Geneviève Castré depuis longtemps. Quand j'en ai parlé à Jean Gab, lui il m'a sorti toutes les références, il était déjà au courant de tout ça. J'en ai parlé aussi à Mélanie, des éditions Même Pas Mal, en lui demandant s'il était question que ce soit réédité. Et peut-être, en tout cas, il y a quelque chose
germé.
Qui...
Enfin, aux éditions Même Pas Mal.
En tout cas, alors aux éditions Même Pas Mal, je crois qu'elle ne le souhaite pas parce que pour elle, c'est vraiment justement Jean-Christophe Menu qui pourrait le faire. Donc, JC, si tu nous entends.
Ouais, on va lui envoyer un petit mail. Eh bien, super. Voilà, on vous invite à découvrir ou redécouvrir, effectivement, au moins Susceptible de Geneviève Castré, que vous trouverez peut-être dans une bibliothèque. Alors moi, je l'ai vu sur le site, il est quand même commandable, mais... J'ai pas essayé de le commander.
Ouais, le stock de l'Apocalypse est de nouveau dispo.
Voilà.
Et du coup, il y a peut-être encore des.
Quelques exemplaires. Bon.
Peut-être en direct avec la maison d'édition.
Avis aux curieux. Ouais, sur le site, je crois que c'est commandable. Eh bien, on passe à la deuxième pause musicale. Donc, c'est un choix de Jean Gab. Je vais lancer ça très, très vite.
Sa main, seule la main rendue toute chose. J'ai frôlé sa main, seule la main rendue toute chose. Au bord du canal, j'y ai frôlé sa main. Au bord du canal, j'y ai frôlé sa main. Après le canal, nous avons traversé ce pont de pierre. Après le canal, nous avons traversé ce pont de pierre.
Alors c'était J'ai frôlé sa main, pour ceux qui n'auraient pas compris le titre. Donc c'était le duo Cheval de trait que donc Jean Gab a choisi pour introduire un livre de Marco Duseigneur qui s'appelle Après la pluie. Ouais. Alors on peut préciser quand même que Cheval de trait, ils sont entre Brest et Marseille, c'est
ouais,
ça?
Oui, apparemment. Hein, je ne sais pas si le projet est encore en vie, mais en tout cas, voilà. Ouais, c'est
donc
comme ça
qu'il explore un peu la tradition bretonne, de toute façon, voilà, c'est assez étonnant. Tout comme le livre de Marco Duseigneur qui s'appelle Après la pluie, qui est paru en octobre 2025, si j'ai bien noté, aux éditions Fidèle.
Exactement.
On pourra aussi parler un peu de la maison d'édition, très intéressante. Et si je ne dis pas de bêtises, il y avait une exposition, justement, au moment de la sortie, au Poisson Lune.
C'est ça.
Très, très belle exposition.
Et oui, vous l'avez raté.
Non, moi, j'étais là.
ouais, et ouais, du coup, ce que j'aime bien dans Cheval de trait, c'est qu'il y a ce côté tribal du futur, un peu genre folk techno, et qui peut faire écho justement à la BD de Margot, c'est une BD qui a été initiée à la suite d'une histoire courte qu'elle a fait dans la revue Pluie, qui est la 7e itération de la revue Lagon, qui, bon, c'est peut-être un peu cryptique, mais c'est un peu la revue de l'avant-garde en bande dessinée, qui est à la frontière entre l'art contemporain, le graphisme et donc la bande dessinée, où il se trouve toujours plein de chouettes trucs, où ils rééditent de vieux auteurs, ils font des mariages très intéressants. Et donc, dans ce numéro, donc à chaque fois, ça s'appelle Lagon, Torrent, Volcan, et là, c'était le numéro Pluie, et donc Margot, pour ce numéro, a fait la première histoire et qui parle d'un monde où il y aurait une sorte de déluge, une pluie qui ne serait pas arrêtée pendant très longtemps. Ça n'a pas donné l'Arche de Noé, mais par contre, ça a réduit le monde en boue. Et le monde et peut-être même sa population, parce qu'en fait, cette boue est une sorte de boue magique qui peut servir à nous nourrir. Elle nous propose dans son livre des recettes de pain à la boue, à nous héberger, parce qu'il y a aussi des petits tutos pour construire sa maison en boue. Et il y a même une petite histoire où un personnage construit un rein pour sa mère, qui en a avoir besoin, et elle clôture le livre par un rite mortuaire pour son père qui héritera d'un sarcophage aussi en boue. C'est une matière magique qui fait à la fois un peu penser au Barba Papa et à la Patmo de Tarkos, qui était un poète marseillais qui a...
Quelle référence.
qui avait aussi ce truc d'avoir une production un peu de, je dirais, quand on l'entendait parler, parce qu'il y avait c'était beaucoup des poèmes qui déclamaient à l'oral, il y avait un côté un peu fou du bus, et en même temps il y a des moments où ça accrochait, on se disait mais en fait cette folie qui est en train de sortir de ce personnage, elle parle de moi très intimement, et là il y a une sorte de vertige. Et il y a un peu ça dans la bande dessinée de Margot. Elle présente, elle est très belle, très colorée, ça a l'air d'être un objet quasi de la peinture, et puis au final, les histoires qu'elle raconte nous parlent à la fois du monde d'aujourd'hui et du futur apocalyptique qui nous attend. Et ça pourrait être très éthéré, très de l'ordre du rêve, de la poésie, mais pour autant, il est question de violence policière, il est question de frontières, elle fait pas du tout, elle sépare pas du tout son onirisme de la situation actuelle. Au niveau technique, Margot, c'est une autrice qui vient du monde de la bande dessinée, du dessin animé. Elle a fait l'école Émile Coll, et elle a beaucoup travaillé aussi avec Florence Miaille, qui est une figure un peu de l'animation, des courts-métrages d'animation, qui fait de la peinture sur vitre et du dessin animé à partir de sable, un truc assez matériste. Et ça se sent dans sa BD, parce que la façon qu'elle a de mettre en couleur, elle travaille sur deux calques. Elle a son trait qui est sur un calque et sa couleur qui est sous un calque qui est placé en dessous. Et,
c'est ce qu'on pouvait voir justement d'ailleurs dans l'expo, ouais. Qui était assez étonnant.
Ouais, la technique est vraiment surprenante. Et il y a à la fois un côté, dans son dessin, un peu d'immédiateté. Les lignes ont l'air d'être tracées très rapidement. Et à la fois, il y a une sorte d'artisanat autour de la fabrication des images qui crée aussi un trouble très intéressant. Cette technique de dessin sur calque, elle a déjà travaillé il y a plusieurs années. Elle avait lancé un projet qui s'appelait Millefeuille, où chaque jour, elle faisait un dessin sur un papier calque. Et le jour d'après, elle plaçait une autre feuille par-dessus et elle traçait un nouveau dessin à partir de l'ombre, du fantôme du dessin qu'elle avait fait la veille. Et elle a fait ça donc pendant 1000 jours, ce qui a donné un millefeuille. C'était un projet qu'elle voulait éditer, mais c'est impossible à produire, donc c'est resté dans les tiroirs. Mais c'est pour dire que là, donc, elle sort sa première bande dessinée l'année dernière, mais c'est une artiste qui est présente sur la scène depuis très longtemps, et notamment au travers de beaucoup d'expériences collectives. Elle a été une des chevilles angulaires du Fanzine Festival à Paris pendant une dizaine d'années. Elle a ouvert un lieu avec plein d'autres amis à Userche, en Corrèze, où elle organise des résidences. Et en fait, tout ce travail autour du collectif vient vraiment nourrir l'album. Parce que dans l'album aussi, il n'y a pas vraiment de personnages. Enfin, tous les personnages, c'est que des « nous », que des « on ». Il y a très peu de personnages qui sont vraiment caractérisés. Il y aura juste la dernière histoire qui parle du deuil du père, où là, il y a le jeu qui est énoncé, et du coup, un personnage qui va un peu se distinguer de la foule.
On peut peut-être dire deux mots sur la maison d'édition Fidèle, qui est aussi un travail très intéressant.
Ouais, bah Fidèle, ça fait quelques années qu'ils sont présents déjà.
Ça fait une quinzaine d'années, ouais, je crois. Ouais. 2013, j'ai noté. Moi.
Mais ça fait que 2-3 ans qu'ils ont intégré le réseau du livre traditionnel, c'est-à-dire être distribué
en librairie.
En librairie. Beaucoup d'ouvrages très graphiques, souvent pas forcément où la narration n'était pas primordiale.
Ils font pas que de la BD, hein, ils font aussi du.
Et c'est assez récent en fait, avec ils ont fait une BD aussi de Henri Crabière, où moi j'ai tous les artistes et tous les objets qu'ils produisent sont très très beaux, mais comme j'adore la bande dessinée et que j'ai besoin de narration, là depuis qu'ils sont lancés en librairie, ils axent un peu plus là-dessus et ça fait de très belles réussites. C'est Jean-Philippe Bretin qui fait le graphisme, qui est aussi une des personnes qui dirige la revue Lagon dont je parlais tout à l'heure, et qui est un graphiste génial qui a bossé pour De Valence pendant un moment, pour ceux qui ont le rêve.
Voilà, bah c'est une lecture effectivement qui n'est pas forcément facile au prime abord, hein. Enfin, c'est pas du tout négatif, mais c'est vrai que pour un lecteur curieux, on trouvera des très très belles choses. Et c'est un livre aussi, en plus, qui, je trouve, qui est assez. Enfin, il y a un côté positif, hein, je sais pas.
Ouais, ouais.
Comment dire, en tout cas, ça apporte certaines pistes de solutions.
Ce matin, j'écoutais Albert Moukébert, un mec qui fait des émissions sur France Culture, là, sur le cerveau et tout, et il a été interviewé par la librairie Mola, et il parlait de l'étude d'une sociologue américaine qui disait qu'en temps de crise, naturellement, on a tendance à être solidaire dans les moments genre l'ouragan Katrina, le 11 septembre et tout, et que par contre, les décideurs, quand on a la responsabilité, on a tendance à imaginer que ça va être le chaos, que les gens vont se bouffer entre eux. Et je pense que c'est un peu le point de départ de Margot, c'est que ce déluge rendra les choses, on fera tous partie de la même patte et on fera les choses ensemble.
Donc très belle lecture. Du coup, on rappelle, c'est Après la pluie de Margot Duseigneur aux éditions Fidèle. On s'est sorti en fin d'année dernière. Ouais. On lance un nouveau morceau choisi par François Nemeta. Allez hop, c'est parti, je vais essayer d'y aller plus vite que tout à l'heure.
Love song.
Alors, c'était le groupe Public Image Limited avec leur tube This Is Not a Love Song. Donc, c'est un groupe lancé par John Lydon, là, alias Johnny Rotten, après la fin des Sex Pistols. Et donc, c'est un morceau qui fait partie de la BO d'un film d'animation qui s'appelle Valse avec Bachir. Et donc, comme je disais tout à l'heure, François, tu es cinéaste. Enfin, on reparlera tout à l'heure pour ton deuxième livre, ton deuxième choix, un peu plus de ton parcours. Et donc, forcément, en tant que cinéaste, tu as choisi un film, mais qui est aussi un lieu. Voilà, donc Valse avec Bachir de Harry Folman, c'est ça le film, sorti en 2008, si j'ai bien noté. Mmh. Et donc il y a eu un livre donc, aux éditions Casterman qui est sorti en 2009, qui est lui épuisé. Voilà, et donc qui reprend des images. Voilà, je ne sais pas exactement comment ils ont travaillé, tu pourras peut-être nous dire si tu en sais un peu plus. Donc Harry Folman, scénariste et réalisateur du film. Et donc il s'est associé à David Polonsky pour le livre, qui était aussi directeur artistique, enfin en tout cas qui a participé activement à la partie graphique du film. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Valse avec Bachir, l'histoire, et puis
ouais,
après
bien
le
sûr.
Film et le livre
Valse avec Bachir, donc film de 2008, dessiné par David Polonsky. En fait, ça commence par un cauchemar, c'est une histoire vraie au départ, c'est une histoire de culpabilité, de stress post-traumatique. C'est des anciens soldats qui font une recherche sur la mémoire, sur leur... comment vivre avec la mémoire de l'insoutenable, en fait. Ils cherchent, ils font une enquête entre eux. En fait, il y en a un qui mène l'enquête auprès d'anciens soldats. Ils essayent de comprendre un peu le mal qui les hante, quoi. Mais en fait, voilà, c'est qu'ils ont été... Le problème, c'est que voilà, c'est des anciens soldats israéliens qui ont fait des saloperies.
Clairement. Alors, ils ont vu surtout des femmes.
Qui ont vu. Enfin, parce que oui, qui ont vu.
Il faut rester quand même un petit peu.
C'est vrai. Qui ont vu.
Ils ont laissé faire, on va dire.
Qui ont vu, qui ont laissé faire, qui se sont fait manipuler aussi par leur hiérarchie militaire. Et ils cherchent, en fait. C'est une histoire d'image manquante, en fait. Ils ont des blancs, c'est ce qui s'appelle vraiment le stress post-traumatique. Et ils essaient de comprendre ce qui manque, les moments que leur cerveau n'ont pas imprimés. C'est ça vraiment le syndrome de stress post-traumatique. Et du coup, ça fait une histoire un peu méta, là, où ils sont à l'intérieur de leur souvenir et ils essaient de comprendre ce qui leur manque. Alors, ouais, c'est pas évident comme histoire. C'est assez, ça peut être un peu rébarbatif comme film. Ça peut être un peu long, un peu pesant, un peu sur des interviews. Mais c'est parce que c'est un film documentaire au départ. Et la bande dessinée est exactement comme le film. Et moi, je crois que je préfère presque la version papier. Parce que... Enfin, je sais pas. Parce que...
Ah, mais c'est intéressant.
Donc, les deux marchent bien. Mais on comprend bien la dimension documentaire dans le film. Parce que, en fait, tous les sons sont les voix des gars qui sont interviewés, donc ouais. Ils sont d'anciens soldats et qui racontent un peu leur trauma, et tout est illustré. Évidemment, le fait de passer par le dessin fait que ben on voit pas leur visage actuel, on voit pas leur visage au moment où ils sont filmés. D'ailleurs, c'est filmé au départ et puis ensuite il y a un principe de rotoscopie qui fait que ils sont redessinés et du coup. Bon,
il garde un côté très réaliste.
C'est ultra réaliste dans le dessin. C'est comment dire. C'est un graphisme qui est voilà avec une esthétique semi-réaliste, un traitement des couleurs assez original et ça a donné un film quand même assez marquant.
Bah, c'est un film d'autant plus marquant que c'est considéré quelque part comme le premier long métrage d'animation documentaire.
Ouais, c'est ça.
Voilà, qui a eu tenu un certain nombre de prix. Hein, j'ai pas tout noté, mais c'est un des meilleurs films étrangers en 2009.
Ouais, ouais. Golden
Globe,
Oscars,
après,
etc.
Oui, bon, oui. Il était à Cannes. Il avait été présenté à Cannes en 2008. Il a été sélectionné aux Oscars. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il est sélectionné dans des catégories film et pas film d'animation.
Ouais.
Voilà, ce qui montre quand même que ça est.
C'est un doc,
passé
en fait.
Un certain palier. Et alors moi, ce qui m'intéresse aussi, sans dévoiler sur ce quoi tu travailles en ce moment, mais forcément, mais aussi ce qui t'a interpellé,
ouais.
Comment tu as découvert ce film, est-ce que ça a engendré un peu chez toi
ce livre. Je menais une recherche. J'avais écrit un scénario il y a une dizaine d'années sur des faits un peu dramatiques, et je me disais bon, pour en faire un film. Et je réfléchissais, et à un moment, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, non, mais en fait, je ne peux pas faire ce film. C'est trop dramatique. C'est sur des événements dramatiques qui se sont passés à Paris en 2015, les attentats. Mmh. Et je me disais, bon, ça ne m'intéresse pas tant que ça, finalement, de faire ça en film. C'est trop plaqué à la réalité.
En film et avec des acteurs.
En film avec des acteurs. Finalement, je me suis dit, non, mais je ne peux pas faire un documentaire. Bon, bref, ça ne marche pas. Et j'ai laissé reposer ce scénario. Et puis, il se trouve que 5 ans plus tard, donc il y a déjà 4-5 ans, ouais, je discutais avec des étudiants en documentaire et j'essayais de leur faire voir que le documentaire, ça pouvait être très émouvant, très beau et que ça pouvait prendre plein de formes différentes. Et je leur montre, bah tiens, un documentaire, a priori... Sur un sujet âpre, sur un sujet pas facile, hop, tourné décliné en sous forme de film d'animation. Et en voyant ce film, et donc ils étaient un peu surpris, ok, documentaire en film d'animation, c'est pas évident, mais ça m'a tout à coup ouvert cette petite porte là où je me suis dit, mais finalement, mon film, je peux en faire un film d'animation et prendre un recul complètement. Voilà, décoller de la réalité, prendre du recul et traiter en film d'animation tout à coup un sujet dramatique, ben c'est beaucoup, peut-être ça m'ouvre la porte vers un imaginaire un peu plus large, vers des rêves, des cauchemars et des choses qui sont difficiles à faire en film finalement, sans partir vers du film avec des effets spéciaux, quelque chose qui est quelque chose que j'aime pas vraiment.
Voilà, c'est étonnant parce que moi voilà. J'ai lu, en faisant des petites recherches très rapides, j'ai lu un témoignage d'une lectrice, je crois, enfin, ou d'un lecteur sur Internet, sur un forum quelconque, qui rejoint un petit peu ce que tu dis et qui trouvait qu'effectivement la version, alors là par rapport à la version papier et la version animée de Valsaïk Bachir, effectivement qu'il y avait une certaine... Alors, pas de douceur, peut-être pas le terme, mais en tout cas quelque chose qui permettait aussi de faire des pauses, de créer vraiment une distance, ouais. Un petit peu comme ce que tu dis sur ce projet sur lequel tu travailles.
Ouais, c'est ça, mais la distance, est, enfin voilà, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est finalement prendre une histoire absolument raide, dramatique, enfin voilà, qui est très très dure à traiter en film, sans être tire-larme ou voilà, ou trop dur à filmer. Et tout à coup, le fait de passer en dessin me permet d'entrer dans un monde onirique, me permet d'entrer dans des rêves, des séquences beaucoup plus apaisées. Et, Max et les Maxi-Monstres,
par exemple.
Finalement, c'est une histoire de rêve et de réalité. C'est quelque chose que j'aime bien essayer de traiter dans les films que j'ai faits. Et finalement, bah, c'est peut-être pour ça que cette histoire dramatique, je réussirais peut-être à la faire en film d'animation plutôt qu'en réel.
Eh ben, on attend de voir ça. C'est pas pour tout de suite, malheureusement.
Oh, c'est pas pour tout de suite. Non, mais... On est à sortir les premiers dessins depuis la semaine dernière.
Ah, ok, d'accord.
Voilà, donc ça avance tout doucement.
Bon, très bien. Eh ben, donc on en parlera peut-être une prochaine fois quand ce sera un peu plus avancé.
Tout à fait.
Dans une future émission peut-être.
Et maintenant nous allons passer au deuxième choix de livre de Cécile, qui est un livre jeunesse qui s'appelle donc L'OFA et le souvenir de Mamie Zélie. C'est aux éditions Shed Publishing.
J'ai choisi de vous parler d'un album jeunesse, car à la librairie Histoire de l'œil, je m'occupe particulièrement du rayon jeunesse. Et je voulais vous parler d'un album qui est sorti très récemment, à la fin 2025, aux éditions Shed, qui est une maison d'édition marseillaise. Un livre qui s'appelle L'OFA et le souvenir de Mamie Zélie, qui est un livre pour les enfants et qui parle de la mort d'une façon très, à la fois très directe et très douce. Ce qui est très appréciable dans cet album, déjà, c'est qu'on ne prend pas les enfants pour des idiots. Ça part bien, de toute façon. Donc, c'est un petit album qui raconte la vie d'une petite fille qui a beaucoup d'amis, et notamment des amis insectes. Elle est amie avec Tula et l'araignée, avec Calo l'escargot, Dame Limace et Mumu la mouche, sans oublier Marv le cafard. Et en fait, ces deux mamans lui apprennent un jour que sa mamie Zélie est morte. Et donc, ça va être pour Lofa l'occasion aussi de se souvenir de tout ce qu'elle a pu partager avec sa grand-mère, c'est-à-dire les plats de banane plantain aux zestes de citron, que la mamie ajoutait pour casser le gras. C'est l'occasion de se souvenir des moustaches et des barbes qu'elle faisait avec la mousse du bain ou des balades en forêt. Sa mamie disait « Peu importe où je me trouve, tant qu'il y a la forêt, je me sens chez moi. » Et à la fin de... Donc elle va aux obsèques de sa grand-mère au Morne Rouge, en Martinique. Et à son retour, alors qu'elle est très triste et qu'elle a vraiment du mal à passer cette étape de disparition de sa grand-mère, ses amis, limaces, cafards, araignées, etc., viennent la voir pour la soutenir et lui donner un peu le moral. Et en discutant avec elle, se rendre compte que ce qui compte pour l'OFA, c'est de pouvoir garder la lumière que pouvait procurer cette grand-mère. Alors, ses amis lui disent « Pas de problème, on va aller rencontrer quelqu'un de très important qui va pouvoir nous aider. C'est un ver de terre. C'est un ver de terre qui s'appelle Biba et qui habite au parc aux songes. » Et en fait, Biba va parler justement de son rôle à lui. Donc, on va basculer aussi là dans une session un peu écolo. Où Biba va raconter ce lien entre la vie et la mort, comment les vers de terre, en compostant, en apportant les feuilles mortes dans la terre, vont permettre aux arbres ou d'avoir de l'eau qui circule à leurs racines ou des nutriments. Et donc, il va y avoir cette chose, en fait, cette vérité, en fait, qui va éclater à la fin du livre, que les morts et les vivants sont liés et que c'est aussi grâce aux morts qu'on peut se sentir si vivant. Comment ils disent ça? C'est une manière très jolie. Toutes celles et ceux qui meurent aident les vivants à grandir. Et donc l'OFA peut partir avec cette idée que sa grand-mère l'aidera à grandir. À la fin de l'album, il y a un poème de Birago Diop, qui est un poète sénégalais. Et il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, je trouve, par rapport à l'objet livre et à comment il est présenté à l'enfant. C'est qu'à la fin de cet album, donc, qui parle de la mort d'une façon à la fois légère et très sérieuse, il y a toute l'équipe éditoriale qui a permis de donner naissance à ce livre-là. Aussi bien l'auteur, Soto Labor, qui est un performateur ou performeur poète qui a écrit le texte, Aminata Labor, qui est à l'illustration et qui a fait des illustrations très colorées, très dansantes, elle-même aussi est poétesse, traductrice et la sœur de Soto. Mais ce générique ne s'arrête pas là, puisqu'on va aussi découvrir que Victoria, Lydia et Laura font partie de l'équipe qui a permis à ce livre d'émerger. Donc Victoria, qui est la directrice artistique et la graphiste, Lydia Marouche, qui est éditrice, et Laura Boulik-Lelouch, qui est éditrice aussi. Et donc, c'est aussi montrer vraiment que ce livre est un travail d'équipe, un travail collectif, et c'est quelque chose qui est très important et vraiment porté de façon très concrète par les éditions Shed.
Ouais, justement, là, cette maison d'édition, donc tu disais, elle est née à Marseille. Moi, j'ai noté en 2020, si je ne dis pas de bêtises, printemps 2020, après, ouais. Ils sont créés. Et là, depuis quelques temps, l'été dernier, ils ont ouvert un lieu qui est au 9 rue Albert Chabanon, donc dans le 6e à Marseille.
C'est ça.
Un espace de lecture et de programmation. Alors moi, je ne connais pas du tout, mais on peut retrouver leurs ouvrages, j'imagine.
On peut y retrouver leurs ouvrages, on peut y retrouver des rencontres, un espace de lecture, mais aussi un espace de soutien à la création pour les personnes qui souhaitent présenter leur dossier, que ce soit de l'écriture ou du dessin, ou pour pouvoir en discuter. Il y a énormément de rencontres, d'ateliers aussi qui sont programmés. En fait, je vous invite vraiment à aller voir leur site parce que c'est très précis et il y a beaucoup, beaucoup de propositions. Et c'est toujours marqué par le collectif et la volonté de faire des choses ensemble.
Alors, on peut préciser qu'ils ne font pas que des livres de jeunesse, hein, comme tout à l'heure Fidèle.
Tout à fait.
Là même, eux, ils sont plutôt un côté d'écrit engagé, féministe et autres.
Mais il y a pas mal d'essais. Il y a trois collections. La collection jeunesse s'appelle Dans deux scies. Et il y a aussi effectivement deux autres collections Alors, je ne me souviens plus des noms. Il y en a une qui s'appelle Arpentage, où là, on va retrouver plutôt tous les essais politiques et féministes. Et une autre dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Brochure, qui est une édition plus légère, on va dire, et qui s'apparente plus à du fanzine.
Ok, bon, donc voilà, je rappelle l'adresse, c'est 9 rue Chabanon, si je ne dis pas de bêtises, dans
c'est
le
bien ça.
6e arrondissement, les éditions Shed. Et donc, le livre s'appelle Lofa. Et le
souvenir de Mamie Zélie.
Voilà. Après le livre, deuxième choix de Jean Gab, donc qui s'appelle Amère.
Ouais.
Donc de Amère en un seul mot. Enfin, comment dire. De Lucrèce André A.E., c'est comme ça qu'on dit ?
Je crois.
Voilà, qui est sorti chez Delalour. C'est son deuxième album. Peut-être, elle avait fait un premier ouvrage assez remarqué qui s'appelait Flipette et Vénère,
ouais.
Qui est sorti en 2020, c'est ça ?
Ouais.
Voilà, qui était sur l'histoire de deux sœurs, voilà, assez antagoniste. Et là, c'est un récit un peu plus autobiographique sur
ouais.
sa maternité.
Ouais, ouais, complètement ouais. autobiographique. C'est une autrice bah, qui est de 88 comme Margot du Seigneur dont on parlait tout à l'heure, qui elle aussi vient de l'animation parce qu'elle a fait l'école des Gobelins et la Poudrière, qui sont vraiment le haut du panier en animation.
La Poudrière à Valence, ça,
ouais. En animation en France et puis dans le monde aussi parce que elle a fait un premier. Du coup, j'ai en aimant beaucoup ce bouquin, alors que je n'avais pas gardé un grand souvenir du précédent, je me suis renseigné. J'ai vu qu'elle avait fait un court-métrage que j'avais beaucoup aimé en 2012, quand moi-même j'étais étudiant, qui s'appelle « Les mots de la carpe », qui est un court-métrage autour d'une séance de speed dating où chaque perso a un graphisme particulier qui reflète un peu son comportement. Et on voit comment, mis les uns face à face, ils vont réagir différemment, mais d'une manière très graphique. Ce n'est pas tellement dans le texte, c'était très très bien, avec aussi un dessin assez matiéré. Elle a eu le César du meilleur cours d'animation pour Pépé le Morse, qui est un dessin animé qui parle du deuil d'un grand-père aussi. Et de toutes les émotions aussi, avec des personnages très caractérisés comme dans les mots de la carte, mais avec un dessin beaucoup plus comment dire, fini, beaucoup plus ligne claire. Et ensuite, elle a bossé sur Scavenger Reign. Pour les gens qui s'intéressent à l'animation adulte, c'est vraiment une des séries les plus ouf qui soit sortie ces derniers temps sur HBO. Et elle a bossé aussi sur La métaphysique des tubes, l'adaptation d'Amélie Nothomb là, en dessin animé, que je n'ai pas vu, mais en tout cas, c'est assez joli.
Super.
Dis donc.
Voilà, donc la classe, quoi. Donc,
ouais, et puis elle a le temps de faire des BD à côté de tout ça.
Et un bébé surtout. Bravo. Et puis quand on voit ce que ça lui coûte, ce que ça lui prend, c'est assez héroïque, quoi, d'avoir encore l'énergie d'en rendre témoignage. Et ce qui est bien, c'est que voilà, elle vient des Gobelins, donc c'est une meuf qui sait tout dessiner dans tous les styles, n'importe comment. Et du coup, des fois, ces profils-là, genre Hugo Bienvenue, Bastien Vivès, ces gens qui ont une telle facilité avec le dessin, souvent, je trouve que quand ça passe en bande dessinée, ça glisse trop, ça accroche pas, et moi, je trouve qu'il n'y a pas un caractère très singulier qui ressort dans le dessin, mais là, Lucrèce, dans ce bouquin, elle a tellement une urgence à raconter ce qui lui arrive qu'on sent que son dessin, il est pris dans le geste, il est dans le nerf, il est comme un muscle, il devient vraiment une écriture, ce qui est souvent ce qui manque, je trouve, aux gens qui viennent de l'animation et qui viennent faire de la bande dessinée. Ils savent trop dessiner et leur dessin est très beau, mais je trouve raconte moins. Et là non, le dessin raconte et nous crache à la gueule. Il est ultra coloré, ben, comme Margot tout à l'heure, elle s'est dessinée au Posca aussi. Et puis pour parler quand même de ce que ça raconte, ben ça raconte simplement l'arrivée de son premier enfant. Et comme c'est quelqu'un qui veut bien faire et qui est consciente et qui a conscience de plein de problèmes qu'il y a dans la société, aussi bien ben, au niveau des violences gynécologiques au moment de l'accouchement, des violences éducatives qu'il peut y avoir... Elle va beaucoup se documenter, elle va essayer de trouver des maîtres, elle utilise des fois des vocables comme ça, des gens qui pourraient lui dire comment faire autrement. Et en fait, elle va petit à petit s'ensevelir dans toutes ces alternatives, parce qu'évidemment que ce que nous propose la société patriarcale et la violence qu'elle entraîne est à rejeter. Mais du coup, c'est difficile de ne pas se jeter dans toutes les alternatives qu'on nous propose, qui ont aussi sans doute des choses très, très bonnes à apporter. Mais le fait de les suivre aveuglément et d'être plutôt en train d'essayer d'appliquer une méthode plutôt que se faire confiance, de voir ce qui se passe. Et puis toujours aussi d'être dans un truc de corps un peu entreprise où il faut réussir son accouchement, il faut réussir l'éducation de son gamin. Il y a une pression de résultats sur quelque chose qui devrait être juste de l'expérience. Enfin, même de dire qui devrait, c'est un peu problématique. Mais en tout cas, toutes ces injonctions, même les injonctions à faire différemment, lui pèsent énormément et la mettre dans des spirales de l'enfer. Ça coïncide aussi avec le Covid, qui est aussi quelque chose, je pense, dans le travail de Margot qui a nourri son boulot, parce que du coup cette crise personnelle, bah, elle fait écho à une crise mondiale, et en fait dans son cas elle va renforcer l'autarcie qu'il y a dans le couple et dans la famille, et renforcer aussi la problématique. On la voit dans sa BD, il y a des extraits de son journal intime. On voit qu'elle note toutes les tétées, toutes les siestes que fait son gamin, toutes les tentatives qu'elle a de rationaliser ce chaos ultime qui est l'arrivée d'un nouveau-né. Ouais, vas-y.
Et on peut dire aussi qu'elle n'est pas beaucoup aidée par le père de l'enfant.
Ouais, c'est aussi très bien traité parce qu'on le voit, on le voit en fait. Elle, on voit qu'elle est ultra investie, qu'elle y va à fond, mais du coup qu'elle se trompe, qu'elle s'épuise et tout ça. Et puis on voit le père qui petit à petit dégage un peu de la BD. Il est quelquefois en pied de page, puis on le retrouve tous les 3-4 pages, puis petit à petit, et puis je spoil, à la fin c'est « Ah ben en fait j'ai fait un bébé avec une autre ».
Alors que lui aussi est dessinateur de BD.
Ah, tu spoil.
Et que tous les deux,
comment
en fait, sont.
On ne sait pas si on a le droit de le dire, parce qu'elle ne le dit pas dans la BD.
Mais vous le devinerez sûrement, oui, toute seule et tout seul. Et en fait, tous les deux sont dessinateuristes de bande dessinée, et c'est elle qui a la charge principale de l'enfant et de la prise de tête, alors que lui, pendant ce temps, décolle dans sa carrière.
Ouais. Et il y a aussi cette facilité de dire bah tu te prends trop la tête, comme je viens de le dire, elle se prenait trop la tête, et du coup bah lui il se prend pas la tête, il va voir ailleurs. Et ce qui est très bien dans la BD, je trouve que c'est pas du tout le centre du truc. Elle parle de son expérience de maternité, et aussi il y a un truc sur la société où évidemment il faut qu'on fasse des bébés, mais après quand on est avec un bébé, il faut lui trouver une crèche, il faut lui donner le sein, il y a plein de trucs très pratiques où ça devrait couler de source. Et puis tout le monde a des petites injonctions, des petites formules magiques. Moi, j'ai fait ça, ça a marché et tout. On est tout le temps en train de se comparer. On a plein d'infos, et aussi de nos parents qui nous disent « Ah, mais non, il faut pas faire ça. » Et ça peut être ultra violent. Et on voit comment cette envie de bien faire aussi fait que il y a ce décrochage du couple. Mais je trouve que dans la BD, elle montre qu'en fait, ça lui permet aussi de trouver un équilibre. Non, tu ne trouves pas?
Non, je ne suis pas.
En tout cas, j'ai l'impression que ça clarifie les choses, et qu'au moins, elle n'a pas essayé, en plus, de faire un corps parental avec...
Elle n'en a pas l'occasion. Elle est trop prise, justement, dans tout ce que tu racontes, dans toutes ces injonctions de bien faire, et aussi par la vie avec un enfant, et d'essayer de travailler en même temps. Et quand, enfin, elle arrive à s'en dégager et à pouvoir voir la lumière et à reprendre sa respiration, c'est là qu'on lui annonce qu'il lui annonce qu'il va faire sa vie ailleurs.
Ouais, qui fait un deuxième enfant, alors que assez rapidement, quand ils sont dans le chaos, c'est lui qui dit bon, on n'en fera pas de deuxième, parce que c'est trop dur.
On est tous plein de contradictions. Bon, on vous invite du coup à vous faire votre propre idée sur Amère de Lucrèce Andréae, donc qui est paru chez Delcourt. Il a tout récemment, c'était en février, je crois, c'est sorti. Donc c'est vraiment quelque chose de tout récent. Et alors, on va poursuivre avec donc François, qui est donc son deuxième choix.
Oui,
donc du coup, je vais revenir à ce que j'aurais dû faire dès le début. Donc, présenter un petit peu plus François, donc, qui est cinéaste, qui a travaillé, bon, je ne vais pas faire tout ton CV, mais quand même comme pendant un certain nombre d'années, comme premier assistant de Michel Gondry.
Oui.
Tu faisais du peu. Voilà. Et donc maintenant, tu as ta propre carrière. Donc tu es aussi réalisateur de clips et de documentaires, notamment deux que tu as consacrés à Michel Gondry.
Bah oui.
Re-auto-promo.
C'était encore plus simple.
Bah ouais. Tu connaissais bien le sujet. Donc, re-auto-promo. Donc, du coup, tu en as fait deux. Il y en a un qui s'appelle Do It Yourself.
Ouais.
Donc, c'est des coproductions à Carté. Hein, donc, voilà. Qui durent à peu près plus d'une
heure. Une heure vingt. C'est ça. In Bed. Et puis, In Bed with Michel Gondry, voilà. Qui fait 55 minutes.
Voilà. Donc, qui sont deux facettes bien du travail voilà, de Michel Gondry. Et donc, auto-promo, je le disais. Donc, du coup, il y aura une projection donc, en séance gratuite le 20 juin. Au cinéma Le Miroir, à la Vieille Charité, donc c'est un samedi. Donc normalement, ce sera aux alentours de 18h, donc en présence de François qui viendra présenter. Du coup, donc, ce sera Do It Yourself qui est le plus.
Trop bien. C'est un peu le menu best-of de Michel Gondry, voilà, aussi.
Donc si vous voulez, voilà, vous êtes les bienvenus, c'est gratuit, il faudra peut-être réserver, on verra. Donc on vous redira, donc c'est samedi 20 juin au cinéma Le Miroir, et donc tu as choisi tout ça. Pour en arriver là. Donc, choisis comme deuxième choix de BD, donc justement, un ouvrage de Michel Gondry.
Eh ben oui.
Si vous ne le savez pas, Michel Gondry a
commis aussi de la dessinée.
Voilà, hein, donc il a fait aussi du dessin animé, etc. On n'en a pas parlé.
Non.
Mais peut-être.
Au départ, il a commencé dans l'animation, Michel, et il était aux arts appliqués. Puis en sortant des arts appliqués, dont il s'est fait virer, quand même, il faut quand même le dire, ensuite, il est parti vers. Le film, les clips, beaucoup d'animation, du travail d'animation en 3D, c'est-à-dire avec des petites marionnettes.
Ou en papier découpé.
Et puis beaucoup de papier découpé, de choses comme ça. Et entre-temps, en 2008, il a fait une BD qui s'appelle « On a perdu la guerre, mais pas la bataille ». Donc on est encore dans les thèmes de la guerre.
Ouais,
je suis
ouais,
un peu désolé de ça. C'est peut-être l'actualité qui m'a influencé. Et qui est une BD, ça ressemble, c'est très foutraque. Hein. On se croirait dans un fanzine des années 80 un petit peu. On a l'impression de voir des.
Il y a même la couverture, c'est marqué 32 pages couleur.
Ouais. On dirait du fanzine en fait. On dirait du fanzine avec des personnages un petit peu mal dessinés comme ça ou dessinés. Il me détesterait si je disais à la va-vite. Mais en fait, il dessine comme ça. Il dessine un peu.
Mais
on
n'est
pas très loin de chez Crumb. On est dans un univers un peu OVNI underground.
Ça colle pas mal au propos.
Ouais, c'est une sorte de comics un peu jouissif, un peu barré. Et c'est pas bien formaté, mais c'est. Oui, alors pour raconter vite fait, parce que c'est quand même une histoire assez marrante. Dans les années. Quand on était né dans les années 60-70, on avait. Quand on était vieux, comme moi ou comme Michel. On avait une crainte qui était de devoir faire notre service militaire. Et. Michel est né en 63, donc fin des années 90, il doit aller au service militaire. Et heureusement, il se fait réformer, parce que évidemment, avec ses potes des arts appliqués, ils n'avaient pas du tout envie d'aller à l'armée, et ils se font réformer, P3, P4, etc. Et puis il se trouve qu'en 96, le président Chirac décide que terminer le service militaire, et eux, ils se disent, c'est bon, on est libérés. Mais, dans cette histoire complètement barrée qui est, on a perdu la guerre, mais pas la bataille, la guerre revient. En fait, il y a tout à coup, la guerre revient en Europe,
ouais.
Complètement barrée. Hein, une armée de femmes d'Europe de l'Est qui envahit l'île de France. Mais toutes les armées sont parties en Amérique pour faire un show. Et le président français qui est
Johnny Hallyday,
quand même. Il décide qu'il faut rappeler tous les gars qui se sont fait réformer dans les années 80. Et donc, il rappelle Michel et ses trois potes, dont un est mort.
Mais ils vont le chercher quand même.
Ils vont le chercher au cimetière, ils le déterrent et puis le mec vient avec eux. Donc, ces quatre zigotos vont défendre toute l'île de France avec des lance-pierres, avec des armes un peu nulles. Et ça fait quelque chose de... Voilà, ça fait une histoire qui ressemble à du fanzine underground, mal branlé des années 80. Mais très, très drôle en même temps. C'est frais, ça se prend absolument pas au sérieux. Et c'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de piles. C'est-à-dire le groupe qu'on a écouté tout à l'heure, Public Image Limited, revient dans le groupe, revient dans le film parce que le personnage qui est mort a un t-shirt de piles. et écoute du Peel et prononce des phrases tirées des chansons de Peel pendant toute la bande dessinée. Donc il y a un rapport comme ça entre
thématique guerre et Peel.
Thématique guerre et Public Image Limited post-punk. Voilà, c'est
voilà, pour l'anecdote, c'est quand même un livre qui a été traduit de l'américain.
Ouais, il l'a écrit en américain à l'époque, voilà, en 2008, sorti, et puis il s'est sorti en 2011.
Et après, c'est sorti en France en 2012. Je crois que c'est toujours disponible, normalement. Ça doit être aux éditions Cambourakis.
Cambourakis en 2012.
Voilà, ouais. Donc ça s'appelle « On a perdu la guerre, mais pas la bataille », à ne pas confondre avec l'inverse. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter... Alors, on a vraiment 37 secondes, enfin, on est hyper en retard, mais c'est pas grave. Si vous voulez rajouter quelque chose sur l'actualité de, de vos librairies respectives ou autres, c'est le moment.
Le jeudi 9 avril, à l'Histoire de l'œil, l'illustratrice Clémence Paldacci est invitée pour la sortie de son album aux éditions La Partie, un album qui s'appelle Le Grand Imagier de la Maison. Et on sera, donc il y aura des jeux, des tatouages, et nous évoluerons dans un imagier géant de la librairie.
Wow.
Eh ben super, eh ben on sera là. Merci encore à tous les trois d'être venus. Cécile de Librairie Histoire de l'œil, Jean-Gab du Poisson Lune, François Nemeta qui travaille de chez lui. Merci à Cécile pour la technique. À bientôt, la prochaine émission, c'est, j'ai noté, j'ai oublié, c'est pas grave, c'est le deuxième jeudi de chaque mois, c'est le 14 mai. Voilà, merci, à bientôt, salut.
Ciao.
Bye. Ciao.